très content de vous revoir de retour de vos vacances. Merci d'être avec nous. Et en même temps, en parlant de vacances, j'aimerais souhaiter un bon retour à plusieurs Québécois qui ont eu la chance d'être en vacances au cours des dernières semaines, donc de revenir au travail. J'aimerais vous remercier les Québécois en général de la solidarité qui a été démontrée au cours des dernières semaines. Vous vous souvenez qu'on a fait plusieurs appels à l'effort collectif sur plusieurs points, notamment au dépistage, mais je dirais beaucoup aussi au port du masque, et j'y reviendrai tout à l'heure parce que ces appels-là ont été vraiment entendus par le grand public, puis je tiens à le préciser. Je vais commencer par le dépistage. Spécifiquement, le dépistage, c'est reconnu, c'est une des armes les plus puissantes de lutte contre le virus. Je vais le dire souvent, puis je vais y revenir. C'est ce qui nous fait penser que dans la deuxième vague, on peut être beaucoup plus proactif que réactif dans la première vague pour des raisons évidentes. Le nombre de cas, le nombre de prélèvements qu'on a eu dans les derniers jours, les dernières semaines, a dépassé plusieurs fois le nombre de 17 000 cas, ce qui n'était même pas un objectif qu'on avait même il y a quelques semaines. En fait, pour la journée, là, pour ceux comme moi qui aiment les chiffres, là, pour la journée du 30 juillet, on a eu 18 437 prélèvements qui ont été réalisés. Alors, on est content de ça. C'est pas un objectif, je dirais, en soi, que d'avoir uniquement des tests, mais d'être capable de bien tester. Et c'est surtout d'avoir les résultats rapidement. On y travaille parce qu'il y a encore de l'amélioration à faire. Mais j'aimerais dire que c'est très encourageant, puis on s'arrêtera pas là, parce qu'on doit être capable d'avoir, je le répète, un dépistage proactif. Bon. J'aimerais aussi parler de... Tout à l'heure, j'ai dit qu'il pourrait avoir des éléments où on a demandé un effort collectif. Bon, pour ceux qui reviennent de vacances, oui, il faut retourner travailler, mais on a pu avoir durant la période des vacances, des fois où on est peut-être moins attentif, y avoir des cas où par inadvertance, on a pu contacter le virus, même si on le voit, les gens font des efforts. Et je vous demanderais à la population en général, ceux qui reviennent de vacances, mais ceux qui ont malheureusement pas y aller, j'insiste beaucoup sur le dépistage volontaire. On est équipé, je le dis, pour le faire, mais si vous avez le moindre doute, que soit de façon involontaire, comme je le disais, ou que vous avez peut-être, il y a eu un petit party, puis vous pensiez que vous étiez limité à 10 personnes, puis que ça n'a pas pu se faire pour X raisons, bien, n'hésitez pas à aller vous faire tester, parce que vous vous souvenez de nos statistiques la semaine dernière, où il y avait eu une recrudescence chez les jeunes, et ce qu'on appelle la zone dont Mme Guilbeault parlait très clairement la semaine passée, les adolescents, les jeunes adultes, bien, le virus est encore très présent chez ces gens-là, puis il ne faut pas relâcher. Donc, au moindre signe, j'insiste là aujourd'hui beaucoup, si vous avez une situation à risque, qu'elle soit involontaire, c'est très, très important d'aller vous faire tester, parce qu'on le voit de nos statistiques quotidiennes, le virus, il est toujours là, puis il demeure contagieux. Bon. Mais je rappelle, par exemple, que c'était attendu et normal, parce qu'il faut bien voir qu'au cours des dernières semaines, on est passé d'un confinement presque total à un déconfinement total. Les gens sont allés en vacances. Alors, qu'il y ait des contagions, c'est normal. On le savait, on pourra en parler avec le docteur Arruda, mais en même temps, si vous ou vos enfants, parce que je pense que dans le cas des garderies qui sont ouvertes, on a vu qu'il y avait des cas, par exemple, dans les camps de vacances, les camps de jour, je le répète, il peut y avoir de ces cas-là, on l'a vu, je demanderais aux parents d'être très vigilants et au moindre signe de ne pas hésiter, allez vous faire tester vous et vos enfants. Bon, J'ai dit en entrée de jeu aujourd'hui qu'il y avait un effort collectif sur le dépistage. Encore une fois, je remercie. Maintenant, sur le port du masque. Et particulièrement dans les lieux fermés. Bon, les Québécois, je pense qu'on le voit. Moi, je le vois ici avec les gens qui ont chacun leur masque. Mais on le voit sur la rue, on le voit dans les restaurants, on le voit dans les bars, on le voit partout. Les Québécois sont vraiment au rendez-vous. Puis je vais vous dire, on a vu les pourcentages augmenter de façon importante au cours des dernières semaines. Madame Guilbeault l'a dit, je pense que son expression a fait un peu le tour. C'est vraiment une habitude, c'est vraiment une norme sociale maintenant. Et ce que j'aime comme expression, c'est qu'on est là pour donner l'exemple. Plus on va donner l'exemple que c'est rendu la norme d'avoir le masque, je pense que tout le monde va pouvoir comprendre que c'est pas uniquement pour se respecter personnellement, mais respecter les autres. Donc, ce qui me permet de faire un rappel aujourd'hui sur les lieux intérieurs. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est très clair, il faut que les lieux privés, les parties privées, en bon français qu'on appelle, les rassemblements privés, qu'ils soient dans une cour ou à l'intérieur d'une maison, d'une résidence personnelle, il faut que ça soit limité à 10 personnes. Il n'y a aucun changement qu'on est prêt à faire là-dessus. C'est trop important pour les raisons qu'on a expliquées longuement. J'aimerais qu'on dise aussi que il va falloir qu'on s'assure que les rendez-vous, les rassemblements intérieurs qu'on va vouloir bouger de 50 à 250 personnes puissent se faire, mais à l'intérieur de normes très strictes. On ne parle pas ici de rassemblement, mais on parle vraiment d'auditorium, d'auditoire. C'est-à-dire que, je donne l'exemple peut-être le plus simple, on est ici à la Place des Arts. On peut monter à 250 personnes, mais pas dans la salle qui est ici. Ça prend vraiment une salle qui peut prendre 250 personnes, mais permettre la distanciation qu'on demande. Bon, maintenant, je dirais en conclusion, après avoir parlé du dépistage, du port du masque, j'aimerais qu'on se donne un défi. Le défi, pour moi, il est important. C'est qu'on a vu, puis les gens s'inquiétaient il y a quelques semaines, qu'il y avait une augmentation du nombre de cas par jour. On était monté, vous vous souvenez, à 180 cas par jour. Et c'est normal que ça nous inquiète, c'est sur notre radar. La bonne nouvelle, c'est qu'au cours des derniers jours, on voit qu'il y a eu, puis je dirais dans la dernière semaine, une certaine stabilité. Par contre, à chaque fois qu'on additionne même une bonne journée comme hier, où on a eu 120 quelques cas, on additionne toujours ces cas-là à ce qu'on appelle nos cas actifs. Puis moi, ma préoccupation et notre préoccupation à toute l'équipe, c'est lorsqu'on va rentrer dans une deuxième vague, on voudrait que ce nombre de cas actifs-là soit le plus bas possible. Parce qu'à chaque fois qu'on additionne un cas, c'est peut-être quelqu'un qui est à l'hôpital, c'est peut-être quelqu'un qui est au côté intensif. Et en fait, derrière ces nombres-là, même pour quelqu'un comme moi qui aime les chiffres, c'est une personne qui est malade, c'est un proche, c'est un parent, c'est quelqu'un de la famille. Donc, et c'est souvent, de plus en plus, on l'a vu, des enfants. Donc, je dirais en résumé que j'aimerais qu'on se donne le défi collectif de baisser ce nombre de cas-là le plus rapidement possible. On l'a vu au cours des derniers jours, des dernières semaines, que quand les Québécois se mettent ensemble pour un effort collectif, on réussit très bien, puis on réussit de le faire de façon proactive, volontaire. Alors, je dirais que si j'avais un souhait avec l'équipe de santé publique et toute l'équipe du ministère, c'est d'être capable de baisser ce nombre de cas-là qu'on a par jour, comme on l'a fait au cours des derniers jours. Et ça, c'est un effort qui peut être fait par chacun d'entre vous de donner l'exemple, de porter le masque, de faire la distanciation, de se laver les mains, et en cas de doute, on va se faire dépister, on a les moyens de le faire. Now I'll say a few words in English.
Alors, pendant que le ministre de la Santé s'adresse au public en anglais, On peut résumer un peu avant que de retourner, parce qu'il va y avoir des questions pour le docteur Arruda, j'en suis convaincu. Alors, la grande, je trouve que la grande nouvelle de ça, c'est deux fois ou trois fois, il a parlé d'une deuxième vague. Mm-hmm. Il va y avoir une deuxième vague. Ils commencent à mettre ça dans leurs phrases et dans leur vocabulaire. C'est parce qu'ils savent que ça s'en vient et il va en avoir une. C'est pas de savoir s'il va en avoir une, c'est quand.
Exact. On nous disait peut-être que ça peut être cet automne, dans les prochaines semaines, au retour peut-être des vacances de la construction. Là, on est jour 1 du retour des vacances de la construction.
Et il en parle déjà, là.
Et il en parle déjà. Alors, effectivement, la deuxième vague, quand elle va survenir, ça reste un mystère, mais chose certaine, en fait, si on les écoute, là, c'est vrai qu'on ressent qu'il doit y avoir une deuxième vague dans les prochaines semaines, prochains mois. Il a vraiment porté une attention particulière sur les tests qui ont été effectués au cours des derniers jours. Il y a eu un pic, si je peux m'exprimer ainsi, de 18 437 prélèvements en une seule journée. Et souvent, les tests de dépistage en avaient plus de 17 000 par jour, ce qui a permis, en fait, à la santé publique d'aller déceler de plus en plus de cas de la COVID-19. Bon, il a précisé qu'à un certain moment, là, on était en haut de 180 cas quotidiennement et que là, quand même, ça semble s'avoir stabilisé, même si on reste toujours au-delà d'une centaine de cas par jour à travers le Québec. C'est le cas hier, là, 723 nouveaux cas.
Et il dit aux gens, si vous êtes revenu de vacances, si vous avez des doutes des fois, tu dis, oh mon Dieu, je pense que c'est avant hier soir quand on a été souper, il me semble qu'il y avait pas mal de monde puis on était proche un peu, puis je ne connaissais pas. As-tu vu le gars, il est sorti comme si ça ne concernait pas cette affaire-là. Donc, si vous avez un doute, allez vous faire tester sur une base volontaire. Allez-y. Allez-y pour être sûr.
Ouais,
ça,
il a mis
c'est un message
sur...
nouveau, ça.
Ben ouais, sur le dépistage volontaire, il a dit on est équipé, on peut faire face au dépistage volontaire. Alors vraiment, si vous avez participé à un événement, un rassemblement, qu'il y avait peut-être un petit peu plus que 10 personnes, qu'il y avait peut-être quelqu'un qui semblait avoir des symptômes de la COVID-19, n'hésitez pas. Il a vraiment rappelé la règle, la norme pour les rassemblements intérieurs qui était d'un maximum de 10 personne. Et puis, il a dit que, bon, il invite également les gens là, âgés de 15 à 39 ans à aller se faire dépister parce que c'est encore une catégorie d'âge où on retrouve plusieurs cas, en fait, de la COVID-19. Alors, il a rappelé ça. Les adolescents et même pour les enfants qui fréquentent des camps de jour, il a dit parents et enfants, si
allez-y
jamais
donc.
Vous avez un doute, allez-y donc.
Parce que la réalité, c'est que il annonce qu'on peut aller dans des spectacles, dans des auditoriums, dans des salles, pas plus de 250 personnes, en respectant la distanciation, le port du masque, et toujours, mais quand on est assis, pas nécessairement, bon. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas bougé en rien sur les rencontres familiales. Les pichettes de blé d'Inde au mois d'août, là, dans la cour, là, ça ne marche pas, ça, là.
Non,
et ça reste à 10 avec trois adresses.
Une petite.
On s'en va aux questions.
Alors, s'il vous plaît, précisez votre nom et votre média, micro 1.
Ariane Lacourcière de La Presse. Depuis une semaine, les chiffres ne sont pas constamment disponibles. Vous revisez les chiffres ou le système informatique, je ne sais pas trop. Mais avez-vous un peu de détails? On parle de 123 cas. Aujourd'hui, c'est des jeunes, c'est des vieux. Les décès, c'est-tu en CHSLD? Est-ce que vous avez un peu plus là, de contexte?
Voulez-vous commencer à répondre, puis j'irai.
Écoutez, effectivement, pour des raisons d'implantation d'un nouveau système qui va permettre d'intégrer mieux l'investigation des cas et des contacts, là, on a eu certains tableaux ne sont pas disponibles actuellement le temps que les systèmes soient remodulés. Mais on suit quand même la situation. Il n'y a rien actuellement là, dans les informations qui nous manquent pour être capable de prendre des décisions éclairées. Les éclosions qu'on a actuellement sont surtout, effectivement, associées, je vous dirais, à des situations soit de type camp de jour où un ou deux moniteurs est malade, et puis là, il y a des infections qui se font. Les gens n'ont pas seulement leur travail, ils vont avoir des réunions, parties, etc. Donc, c'est vraiment des éclosions dans ces univers-là. Il y a eu quelques éclosions qui sont associées, je vous dirais, à des travailleurs étrangers qui ont été faits. Il y a plus de dépistage qui a été fait actuellement. Et puis, les décès, c'est encore actuellement des personnes âgées qui sont décédées. Même dans le décès qu'on a actuellement aujourd'hui. Un des deux décès provient d'avant, je vous dirais, quelques semaines. C'est une recompilation de données. Donc, mais ce que je voudrais vous dire aussi, peut-être, en termes de portrait épidémiologique là, par rapport à la situation, comme le dit le ministre, la situation, elle est sous contrôle actuellement. On n'est pas en train de remonter progressivement, mais ça demeure fragile. Mais l'autre élément que je veux porter à votre attention, c'est qu'on avait beaucoup focusé sur les bars comme étant des endroits, mais on remarque que c'est beaucoup associé aux rassemblements d'un nombre un peu plus important de personnes qui ne sont pas dans un contexte extérieur, là, qui sont dans leur famille. Regardez un exemple. Probablement qu'autour de certains campings, il y a dû avoir, puis là, j'invite les Québécois qui sont allés en voyage à se faire tester, à ceux qui sont dans les régions où il n'y a pas eu de circulation aussi à se faire tester, parce qu'il y a peut-être eu des personnes asymptomatiques qui n'ont pas voulu vous contaminer. Mais si vous vous êtes retrouvé, comme dit le ministre, dans une situation où, vous savez, là, c'est pas naturel d'être à deux mètres tout le temps. On se retrouve une gang de gars ensemble ou de filles, puis dans un party privé, on est 15, on n'est pas 10, 12. Mais ces situations-là, il y en a juste un qui va générer un cas, qui ne sera pas, etc. L'autre élément que je voudrais insister, là, il faut collaborer avec la santé publique. Si on vous dit que vous avez été en contact avec un cas, puis on vous demande de vous isoler puis de passer le test, allez pas, parce qu'on a des histoires de gens qui savaient, qui étaient en investigation, ou même des gens avec des symptômes qui sont allés à d'autres fêtes, pas trop malades, en se disant c'est pas grave, mais ça génère là, des cas puis des cas. Puis c'est là qu'on va se retrouver avec des 150, 160, 180, 200. Fait que j'insiste vraiment là-dessus. Puis c'est pas un péché d'avoir eu un rapprochement à un moment donné, mais si vous vous faites dépister tôt, si vous écoutez les mesures de santé publique, mais vous ne générez pas, ce ne sera pas votre grand-mère ou des personnes à risque qui vont être malades. C'est ça.
Mais peut-être, juste pour venir sur votre question, là, pour la question des données puis des systèmes informatiques, parce qu'il y a eu quelques articles là-dessus, puis je pense que c'est normal que les gens posent les questions, je vous résumerai en direct, puis je pourrais en reparler parce que je mets beaucoup de pression pour avoir ces systèmes-là régularisés au cours des prochains jours, mais c'est une question de semaine. La semaine dernière, on a été capable de donner les statistiques. Vous vous rappelez, on a fait des tableaux par région, par âge, par type d'activité. Moi, je veux que ces tableaux-là recommencent le plus rapidement possible. On me dit que nos deux systèmes, parce qu'il y avait des systèmes qui étaient du côté de l'INSPQ et du côté de la santé publique, qui, des fois, pouvaient avoir certaines différences. Les gens, il faut qu'ils comprennent que la principale raison pour laquelle on fait ces ajustements-là, ce système, c'est qu'il y en ait juste un. Et pour qu'on soit capable d'aller faire la recherche de données pour faire ces analyses-là le plus rapidement possible. J'aurais aimé ça que la transition se fasse comme ça. C'est un petit peu plus long que prévu. Mais on est au bon moment de le faire parce qu'il y a une certaine accalmie. Donc, je veux vous rassurer que ceux qui s'inquiètent, ce n'est pas par manque de transparence. Je pense que le Dr Arruda et son équipe savent que je leur mets beaucoup de pression. On m'a dit qu'à la fin de la semaine, ça devait être réglé. Alors, on aura peut-être été à peu près une semaine ou 10 jours, si j'inclus les deux week-ends, sans ces données-là. Mais je peux vous dire qu'il n'y a aucune donnée qui nous manque pour prendre les décisions. C'est ça que je veux dire. Mais je comprends les gens de se questionner, particulièrement dans le groupe journalistique. Je le respecte. Puis je suis le premier à mettre un peu de pression pour que ces deux systèmes-là soient ajustés au cours des prochains jours.
Juste pour être sûr d'avoir bien compris, Dr Arruda, vous dites que justement, c'est peut-être moins dans les bars, plus dans les rassemblements privés où est-ce qu'il y a des éclosions. Puis vous avez dit, j'invite tout le monde qui sont allés en voyage là, à se faire tester. Donc, justement, les gens qui sont allés dans des campings qui ont pu malencontreusement être peut-être 15 au lieu de 12. Donc, c'est vraiment un appel là, à ces gens-là.
Oui, tout à fait. Puis surtout, si jamais vous avez l'impression d'avoir un petit rhume ou un symptôme là, qui a l'air banal, là, n'hésitez pas à le faire.
Rapidement.
Merci. On va passer au micro 2.
Bonjour, Annie Guillemette au 98.5. Monsieur le ministre, vous avez souvent annoncé que vous vouliez augmenter les tests. C'est maintenant chose faite. Il y a les délais. Vous en avez un petit peu parlé tantôt. Des gens qui se retrouvent avec 5 jours d'attente à la maison sans pouvoir aller travailler. On ajoute à ça l'épuisement des techniciens en laboratoire qui sonnent l'alerte depuis maintenant quelques heures, quelques jours. Il y a des choses qui se font ailleurs, genre des tests plus rapides dans les pharmacies, c'est le cas en France, des choses comme ça. Est-ce que la décentralisation des analyses, c'est quelque chose qui est possible ici ou c'est pas du tout sur votre radar?
Je vais laisser Dr Arruda répondre, mais je voudrais en parler aussi parce que...
Bon, la décentralisation, elle est faite, mais pas au niveau des cliniques privées et des pharmacies. C'est-à-dire que ça a commencé par le Laboratoire de santé publique du Québec qui a fait un test, puis qui l'a validé, puis qui l'a introduit partout. Le problème des tests rapides qui sont faits comme ça par les commerciaux, c'est la qualité du test. Actuellement, on a un standard de test parce qu'on veut pas avoir trop de faux positifs ou de faux négatifs. Et on sait que ces tests-là commerciaux, même s'ils peuvent être utiles dans certains contextes, sont pas à la hauteur de ce qu'on a comme attente au Québec. On aurait aimé, je vous dis bien honnêtement, avoir des tests qu'on peut faire comme tel. L'autre élément, c'est que ces tests-là permettent pas d'avoir nécessairement une très grande volumétrie. Fait qu'on est en train de faire l'analyse, mais vous avez raison aussi, puis je pense que le ministre va nous le dire, tout comme les systèmes d'information, il faut pas les gens qui sont positifs se contacter rapidement, mais les gens qui sont négatifs, peut-être ça peut prendre un peu plus de temps, mais c'est pas acceptable parce que ces gens-là sont arrêtés pendant 5 jours, et puis toute la question des ressources humaines, puis de la, puis ça c'est un problème un petit peu chronique, un peu plus systémique dans notre système actuellement, là, il peut manquer de ressources humaines, mais c'est quelque chose qu'on va adresser, et puis ça fait partie des indicateurs qu'on va nous demander de suivre, là, de façon régulière sur c'est quoi le temps que ça prend pour que le test soit analysé. Ça, c'est assez rapidement, mais que le test se rende jusqu'à la personne, il y a un délai, puis ça, il faut corriger ça.
Je compléterais, si vous permettez, parce que j'ai dit que c'est beau monter le nombre de tests, mais il faut être efficace, puis il faut donner un service, un meilleur service en termes de réponse. Effectivement, je pense que le principal point, c'est pour ceux qui sont souvent un test négatif, c'est aussi important pour eux de le savoir que quelqu'un qui l'est. Alors, lorsqu'on est en train de regarder, c'est le test, s'il est fait, on a la réponse, mais on n'a pas contacté les gens. Alors là, moi, j'ai demandé aux gens, puis on a ajouté, je vous ai dit qu'on renforçait l'équipe au niveau de toute notre équipe de sous-ministres. On a des gens de logistique en ce moment qui sont en train de regarder du début à la fin. Rappelez-vous, quand on a eu le rapport Montréal la semaine passée, la question du dépistage était problématique parce qu'on ne savait pas, ou c'était peut-être pas clair, qu'est-ce qui était santé publique dans la planification, dans les objectifs, mais on disait qu'on laissait au CIS et au CIUS l'opération des tests. Alors, toute la question de... Il y avait peut-être des endroits où il y avait un certain flou. Alors, la journée que le test, il est fait, la logistique, c'est qui appelle qui et le fait comment pour supporter. Alors, oui, il y a peut-être des enjeux, puis je ne le cache pas, il y a quand même au niveau du regroupement qui est en cours de certains laboratoires qui n'est pas terminé. Hein, il y a eu un effort là-dessus. Mais je vous dirais que, globalement, on est en train de travailler sur la logistique et je pense que le bénéfice, les gens vont le voir, les résultats vont être communiqués aux gens plus rapidement.
Merci,
on est là-dessus.
Merci, on va passer au micro.
J'ai pas de follow.
Pardon?
J'ai pas une question de suivi.
Non, c'est une question par journaliste, s'il vous plaît. On va passer au prochain. Merci.
Alors, bonjour, M. Arruda, M. Dubé, Marie-Josée Paquette-Comeau de Radio-Canada.
Bonjour.
En Ontario, à la suite d'une enquête sérologique, la santé publique a affirmé qu'il y avait 4 fois plus de cas qui avaient été de coronavirus dans la population que de cas réellement détectés par la santé publique. Où en est le Québec par rapport à ces tests sérologiques et est-ce qu'on va pouvoir avoir ce type de données? Vous avez parlé là, de réduire le nombre de cas actifs, là.
Effectivement, il y a une étude d'Emma-Québec qui a eu lieu actuellement, dont les résultats vont être rendus publics sous peu, qui va nous permettre d'estimer quelle a été la proportion de personnes qui ont été infectées dans la population. Les chiffres ontariens sont autour de 1.4 à 2-3%. On s'attend à peu près le même niveau ici au Québec. Dans la région métropolitaine, probablement beaucoup plus que dans les régions périphériques. Donc, puis les résultats préliminaires dont on m'avait communiqué, mais qui ne sont pas encore tout à fait terminés, là, allaient dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que... puis on pourra faire la comparaison par rapport à nos données détectées en termes de dépistage, puis nos cas, versus ce qui a été fait dans les études sérologiques. C'est très clair que dans n'importe quelle épidémie, il y a plus de gens non infectés qu'on détecte par sérologie que par les tests, parce que ces gens-là n'ont pas eu aucun symptôme, n'ont jamais consulté le système de soins, et c'est comme ça qu'on est capable de le faire. Donc, Emma-Québec, à partir des dons de sang qui ont lieu avec une méthodologie stratifiée, va nous sortir des résultats sous peu, là, pour ne pas dire dans les quelques jours qui viennent.
Et voilà pour l'essentiel donc de cette conférence de presse. On a bien compris que les questions des journalistes étaient assez évidentes. On a rendu ça à une question par journaliste plutôt que deux. Mm. On avait droit à une sous-question avant.
Ça dépasse le nombre de journalistes en fait qui sont sur place. S'ils sont nombreux, ben, là, on limite à une question. Mais là, visiblement, d'après moi, il était plus aujourd'hui.
Alors donc, la situation est fragile. Le docteur Arruda dit qu'il reçoit de la pression de la part du ministre pour dire qu'il faut que les résultats sortent. Les tests se font, mais avant de le savoir, ça peut aller jusqu'à 5 jours. Ce qui est un problème pour des familles qui sont au travail, qui retournent tranquillement. Alors, oui, ça, c'est la situation.
Effectivement, pour des gens aussi qui doivent attendre le
ben
les
oui,
tests.
Ben oui, c'est quoi, là?
Il faut aller au boulot là, pendant 5 jours.
Merci beaucoup, Sabrina Rivet, de Cogeco Nouvelles. On va s'arrêter pour une pause. On retrouve Luc Lavoie, qui lui aussi a suivi cette conférence de presse. Il va nous donner ses réactions.